Un petit jeu pour commencer. Si je vous dis Paris, capitale de la mode. Buenos Aires, capitale du...
Le soleil.
Non. Oui, il y a le soleil. En tout cas, si on pense aux événements passés, c'est en Argentine. Hein.
Tango.
Hein?
Tango.
Tango aussi, oui. Ah, mais c'est bien. Alors si vous n'avez pas répondu capitale, ils ont gagné la Coupe du Monde, hein, je crois. C'est eux, hein. C'est il me semblait. Bon, je suppose que pour eux, c'est devenu la capitale du football. Peut-être pour eux. Si je vous dis Las Vegas, capitale du jeu. Oui, là, c'est tout de suite. Hein. Si je vous dis Rome, c'est berceau du catholicisme. Eh bien, la Bible donne aussi à plusieurs villes une valeur symbolique. Et notamment à deux villes que tout oppose, et tout opposera à la fin des temps. Il s'agit de Babylone. Babylone la Grande et... la Jérusalem céleste. Deux villes qui sont personnalisées par deux femmes, qui représentent deux alliances. La première, elle est prostituée. C'est Babylone la Grande, qui représente l'alliance de Satan. Tout ce qui s'oppose à Dieu. Et l'autre, eh bien, elle représente l'épouse de Christ, l'autre alliance. C'est-à-dire la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'Église, nous l'Église. Alors, la dernière fois, pour resituer, hein, on continue le livre d'Apocalypse, on avait vu la septième et dernière coupe du jugement de Dieu, avec juste la mention de la chute de Babylone qui est tombée, juste la mention. Et cette fois, au chapitre 17 et 18 que nous allons voir ensemble, eh bien, on va focaliser sur la chute de Babylone. C'est le texte qui focalise sur cet événement tellement important. Qui focalise justement un zoom sur la chute et le jugement de Babylone, la grande prostituée, l'empire de la bête. Donc je vous invite à prendre l'Apocalypse au chapitre 17, et je vais le faire, je ferai une pause au milieu de mon message, entre les chapitres 17 et 18, on prendra un chant au milieu, ça nous fera aussi bouger, et voilà, je vais prier avant. Seigneur, merci encore de nous laisser ta parole, Seigneur, qui nous instruit, qui nous dit comment vivre dans ce monde, Seigneur, tout en te restant fidèle. Et Seigneur, vraiment, on te demande cette grâce de nous aider à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Et Seigneur, oui, nous sommes le sel de la terre, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Seigneur, que nous sachions, oui, avoir de la saveur pour toi, Jésus. Et donne-nous de l'intelligence pour recevoir ces textes et le cœur aussi. Et Seigneur, merci de parler à nos cœurs, Seigneur, pour nous équiper, Seigneur, pour être vraiment plus près de toi, Jésus, plus fort en toi, et aussi être les lumières et celles de la terre, Seigneur. Merci de nous guider. Je m'appuie entièrement sur toi, Jésus, pour ce message. Amen.
Amen.
Apocalypse 17, donc, je dirais. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, rempli d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les sept têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Il faut ici de l'intelligence. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. L'un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est aussi l'un des sept, et elle s'en va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu pour le moment. Je vous propose donc de voir à travers ce texte, qu'est-ce que ça implique de vouloir se passer de Dieu? Parce que là, il est question de personnes qui veulent se passer de Dieu. Eh bien, ce que je vous propose de voir en 3 points, nous verrons que vouloir se passer de Dieu entraîne premièrement la démesure par des alliances politiques toujours plus puissantes. Deuxièmement, on verra que vouloir se passer de Dieu entraîne la convoitise par des alliances économiques démesurées. Et troisièmement, on verra que les alliances contre Dieu et son peuple seront jugées brièvement et définitivement, comment ? En se retournant les unes contre les autres. Donc, premièrement, voyons que vouloir se passer de Dieu entraîne la démesure par des alliances politiques toujours plus puissantes. Babylone, c'est le même mot que Babel en hébreu. Babel, ça nous parle, n'est-ce pas, la tour de Babel ? C'est une ville qui est mentionnée en Genèse, chapitre 11, verset 4. Lorsque les hommes ont dit, je cite, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » Les hommes voulaient se faire un nom. Ils se sont mis ensemble pour bâtir une tour pour celle qui s'élèverait jusqu'au ciel et pour, dans quel but? Pour prendre la place de Dieu. Et Dieu, eh bien, il a répondu en confondant leur langage pour les disperser sur la terre. C'est comme ça que les différentes formes sont apparues. Et puis, toujours dans l'Ancien Testament, après Babel, eh bien, la ville de Babylone est mentionnée. La ville de Babylone fait référence à là où avait été exilé le peuple de Dieu pour sa désobéissance persistante. Ils ont fini par partir en exil. Et Babylone, c'était une ville, Babylone. Babylone, c'était une ville arrogante, qui se croyait indestructible, alors qu'elle s'est effondrée brutalement en 539 avant Jésus-Christ, entraînant avec elle la chute de tout son empire. Babylone, la signification du mot Babylone, ça veut dire confusion. Retenons bien ça, ça veut dire confusion. Ça porte bien son nom pour désigner tout ce qui s'unit contre Dieu, toutes les unions contre Dieu. Et aujourd'hui, je crois qu'on vit dans une société pleine de confusion. Confusion des sexes, confusion des genres, union contre nature, confusion des métiers, confusion entre politique et religion. Ici, dans le Nouveau Testament, donc, à l'invitation d'un ange avec une coupe, eh bien, Jean va voir le jugement de Babylone, la grande prostituée, qui a enivré et séduit les rois de la terre et les nations. Verset 15. Elle tient une coupe d'or remplie de ses abominations et c'est dans sa coupe qu'elle boira le jugement de Dieu. Verset 5 nous dit « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Et Jean, il nous a dit qu'il est frappé d'un grand étonnement en la voyant. Verset 6 et verset 8, il y a plusieurs fois le mot étonné. Vous avez remarqué le mot grand, tout est grand ici. On est déjà dans la démesure. Grande prostituée, grandes eaux, grand étonnement. Le nom de Babylone est un mystère. C'est un mystère dans le sens qu'il est symbolique ici. Il est symbolique et représente tout un système économique mondial rattaché à une organisation politique et religieuse mondiale. La bête à 7 têtes et 10 cornes sur laquelle Babylone est assise. Position assise, ça évoque l'idée de demeurer. Babylone s'est installée sur le monde entier. Sur les nations, qui sont représentées par les grandes eaux, sur laquelle elle a autorité avec la bête puissante. La bête écarlate, avec des noms de blasphème, eh bien, elle est décrite sous les mêmes traits que le diable. Le dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Je vous reporte au chapitre 12, verset 3. Même description. Qui se ressemble s'assemble. Et la femme, elle est elle-même habillée de pourpre et d'écarlate. Elle est pleine de pierres précieuses. Elle est donc très riche d'apparence. Verset 6, elle est ivre du sang des saints. Elle est ivre du sang des saints, verset 6. Les saints, c'est l'Église. Cette démesure dans des alliances politico-économiques toujours plus puissantes, elle a un but, c'est se mettre contre Dieu et contre son Église et persécuter les chrétiens. Et l'ange dit à Jean, pourquoi t'étonner, verset 7? Alors, comprenons, toi Jean, ne te laisse pas hypnotiser, ne te laisse pas séduire, elle peut t'impressionner, ne te laisse pas séduire en adorant la prostituée et la bête comme beaucoup le font. Ne te laisse pas impressionner, ne te fie pas aux apparences extérieures. Et nous non plus, ne tombons pas dans le piège. Puis l'ange se lance dans une explication sur le mystère de la bête. La femme, Babylone, en relation avec la bête qui règne sur le monde, elle est une image de la relation entre la capitale et l'empire. Et ça s'est produit déjà par le passé. À l'époque, Jean pensait certainement à Rome, la capitale et l'empire romain. Rome aux 7 collines, les 7 montagnes. Rome qui était luxueuse, idolâtre. Elle était la capitale d'un immense système politique, économique et religieux. Rome, vous vous souvenez, martyrisait les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils refusaient d'adorer les empereurs, dont Néron. Néron, c'était déjà une image de l'Antéchrist à l'époque. Et si un commerçant, à l'époque, voulait réussir en affaires, il devait participer au culte de l'empereur. C'est ce qu'on avait vu au début de l'Apocalypse, dans une des 7 églises. De même, les nations devaient s'allier à Rome si elles voulaient bénéficier de ce qu'on appelait à l'époque la Pax Romana, la paix romaine. Les nations devaient s'unir à Rome pour pouvoir prospérer économiquement. Verset 8 nous dit « Cette bête était et elle n'est plus ». En effet, Rome, l'Empire romain, n'existe plus aujourd'hui. La Babylone de l'époque n'existe plus aujourd'hui comme empire mondial. Mais Babylone continue de représenter, encore aujourd'hui, tous les systèmes économiques, religieux et politiques qui s'opposent à Dieu. À toutes les époques, pas seulement aujourd'hui, pas seulement passé, présente et encore à venir. Tous les empereurs, rois, présidents qui promettent monts et merveilles. La bête, eh bien, elle peut aussi bien représenter une personne qu'un empire, selon les époques. Elle doit encore monter de l'abîme, ça veut dire réapparaître. Elle reviendra, elle réapparaîtra sous une forme diabolique. Elle ressuscitera sous une forme diabolique avant d'aller à la perdition. Une fois pour toutes, au grand étonnement des perdus. Le règne de la dernière bête à venir, donc, réunira à elle seule toute la malfaisance de ses prédécesseurs. Et elle aura le soutien de 10 rois qui recevront autorité pour régner avec elle pendant 1 heure, soit un temps très court. Ces 10 rois qui lui donneront leur souveraineté nationale. Les peuples vont s'unir ainsi pour mieux persécuter les chrétiens. Le fait que personne ne pourra acheter ni vendre pendant le temps de sa domination sans avoir la marque de son nom, de son ombre, le 666, montre bien qu'elle dominera sans partage sur l'économie du monde. Si on se ramène à notre époque aujourd'hui, il y a des événements qu'il est bon de souligner. Si je vous dis OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, il n'y a pas si longtemps qu'elle est apparue. Elle est apparue en 1994. Et son principal objectif, eh bien, c'est la libéralisation des échanges commerciaux mondiaux par la réduction des barrières douanières en instaurant les mêmes règles pour tout le monde, même la Chine. pour tout le monde. Tous les pays sont soumis aux mêmes règles, ce qui implique quoi? Ce qui implique que c'est la loi du marché qui règne. La loi du marché, qui prend parfois le pas sur la politique. Alors, on distingue donc bien la bête et la femme. La bête, elle, pouvoir politique, elle agit à travers l'autorité, par la force, l'emprisonnement, la brutalité, la mort. Vous avez entendu parler, je pense, les camps de rééducation en Corée du Nord, pour ceux qui n'adorent pas le dirigeant, pour les chrétiens. C'est ce qui se passe en ce moment. Tandis que la femme, Babylone, elle agit plutôt par la séduction, par le biais économique et religieux. C'est plutôt une violence douce. Par contraste avec la bête qui est la plus violente. Mais les deux sont ensemble. La relation entre Babylone et la bête évoque donc la relation entre pouvoir économique et pouvoir politique. Et comme dit Bob Souza dans son commentaire, cette relation c'est du genre « je te tiens, tu me tiens ». C'est une drôle d'alliance. Tantôt l'État sauve les banques par intérêt, tantôt l'État emprunte aux banques pour combler son déficit, ce qui augmente sa dette. Je te tiens, tu me tiens. Et nous, il est important de nous positionner. Quel est notre rôle en tant que citoyen? Quelle est notre position vis-à-vis de l'autorité? La Bible nous demande de prier pour nos autorités, ne l'oublions pas, de respecter nos autorités. Toutefois, la Bible nous avertit aussi. Et nous avons tous à nous poser cette question. Est-ce que l'État nous traite en adultes responsables ou comme des enfants? Les politiques, parfois, certains nous disent « faites-nous confiance à 100%, on s'occupe de tout ». C'est ce qu'ils ont essayé de faire pendant la pandémie, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont bien vu qu'ils étaient, ils n'avaient pas la réponse à tout, même si effectivement ils ont essayé de trouver des solutions. On s'occupe de tout, on choisit pour vous ce qui est bien et ce qui est mal. C'est séduisant. C'est séduisant pour ne pas se donner la peine de réfléchir. La tentation est là de se laisser materner et de se déresponsabiliser individuellement. Et ce que la Bible appelle le blasphème, c'est pas seulement une insulte verbale contre Dieu, c'est de prétendre décider ce qui est bien ou mal indépendamment de lui, indépendamment de Dieu. Ça, c'est du blasphème. Alors le verset 9 nous dit « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse ». C'est un verset qui nous invite à user du discernement que Dieu nous donne. Cette formule, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, verset 9, elle prend tout son sens. Et elle nous invite à exercer notre discernement et à prendre position lorsque l'État outrepasse ses droits. Tout en respectant l'autorité. Dans les limites établies par Dieu. Tout en continuant de prier pour les autorités. Alors restons lucides et en même temps fidèles, fidèles à Dieu. Et puis, dans l'histoire, notamment en France, lorsque la religion se mêle à la politique, ça a été catastrophique. Là, lorsque la religion et politique se mêlent ensemble, on est dans la confusion, on est dans la Babylone. Ça s'est déjà produit par le passé. Lorsque il y a eu la persécution des protestants sous Louis XIV, pour les forcer à se convertir au catholicisme. Politique et religion faisaient ménage à ce moment-là. Aussi Louis XIII avec Richelieu et Mazarin. Dans notre histoire en témoigne, en France. Mais Jésus, lui, il a bien fait la distinction entre pouvoir politico-économique et pouvoir divin. Lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Marc 12, 17, il fait la distinction. Alors le chapitre 17 traitait de la bête, chapitre 18 traite de la grande prostituée. Après le mystère de la bête, eh bien voyons le mystère de la grande prostituée, Babylone la grande, est-ce qu'il a perdu? Mais avant ça, je vous invite à faire une pause. On va se lever et on va chanter ensemble, je vous invite à chanter le numéro 517. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Parce qu'il est possible d'avoir la victoire en Christ seulement. Chapitre suivant, le chapitre 18 de Apocalypse.
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait : sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double de selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle disait en son cœur : je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai pas de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche, au luxe, pleureront, se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est devenue ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de cœurs et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates, magnifiques, sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur la tête, ils pleuraient. Ils étaient dans le deuil et ils disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. » En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule. Il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » On n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne se brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne se feront plus entendre chez toi. Car tes marchands étaient des grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et on en a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
Amen. Vouloir se passer de Dieu entraîne la convoitise par des alliances économiques démesurées. C'est ce qui ressort de ce texte. Le diable, notre ennemi, eh bien, il a un plan. Son plan, c'est de séduire les grands de ce monde, les rois de la terre et les nations, les peuples, par l'apparence. La séduction se passe par l'apparence. L'apparence glorieuse de la femme Babylone. Qu'est-ce qui caractérise Babylone? Ce qui la caractérise, c'est non seulement le pouvoir, mais le luxe. Vous avez remarqué, le mot luxe, il est répété 3 fois. Verset 3, verset 7, verset 9. La convoitise, verset 14. Le sexe, débauche. Inconduite, verset 3 et verset 9. Bref, tous les ingrédients pour séduire les hommes et les détourner de Dieu. Le message de Babylone, on pourrait le résumer ainsi, il est en substance « Adorez ce que vous voudrez, votre chien, votre voiture, votre ordinateur, vos habits, votre nourriture, votre maison, votre métier, vos loisirs et même les hommes, pourvu que ça ne soit pas Dieu. » Ce qui fait que tout son système de valeurs, il est renversé. Il est renversé. Et vous avez remarqué, quand on regarde la liste de ses marchandises, versets 12 et 13, elle est longue la liste. Mais on va s'arrêter sur le début et la fin de cette liste. Par quoi elle commence la liste? Elle commence par ce qui est le plus précieux pour Babylone, c'est-à-dire l'or. Et elle se termine par ce qui vaut le moins pour elle, les hommes. Les âmes et les corps des hommes. Voilà ce qui a le moins de valeur pour Babylone. Juste après les animaux quand même. Les animaux sont avant les hommes. Tout s'achète, même les hommes devenus la moindre des marchandises, en comparaison au luxe de l'or. Et même l'Église catholique faisait le commerce des âmes avec l'achat des indulgences. Il fallait gagner son salut. Il prétendait gagner, qu'il fallait gagner son salut en achetant des indulgences qui financeraient effectivement la papauté, le bâtiment des papes. Et les indulgences sont encore en vigueur aujourd'hui dans l'Église catholique. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Ils prétendent qu'il faut encore acheter, donner pour mériter son salut. Alors que comme on va le voir, salut, il est gratuit. Jésus a tout payé pour nous. À sa chute, Babylone est devenue un repère de démons, verset 9. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'idolâtrie, adorer quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, à la place de Dieu, eh bien, c'est ouvrir la porte au diable et à ses démons. Et le diable et ses démons qui sont bien présents dans notre monde aujourd'hui, même si certains prennent bien soin de les ignorer, alors qu'ils sont là, ils sont présents. Il n'y a rien de commun entre les deux alliances, celle de Dieu et celle de la bête. Pas d'œcuménisme possible. C'est pourquoi Dieu nous dit de sortir du milieu de Babylone, verset 4. Sortez du milieu d'elle. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, pour ne pas participer à ces péchés qui sont accumulés jusqu'au ciel. Et d'autre part, ce qui est une espérance pour nous, pour échapper à son jugement. Pour échapper à son jugement, le jugement divin. Donc pour sortir du milieu d'être, pour ne pas participer à ces péchés, et pour échapper à son jugement. Ce qui est rassurant pour nous. Mais on peut se poser cette question et on peut se poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire sortir du milieu d'elle? Qu'est-ce que cette expression veut dire pour nous? Cette expression qui s'adresse aux chrétiens de tous les temps, et à nous aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'exiler dans le Larzac, avec 3 poules et 2 chèvres, et des arbres fruitiers? Je peux vous dire, on a traversé le Larzac il n'y a pas longtemps, et vraiment, je comprends mieux cette expression, tu vas t'exiler, si tu veux t'exiler dans le Larzac. Il n'y a rien, c'est un plateau, c'est désert. Mais non, c'est pas... Alors, évidemment, il y a besoin de personnes là-bas, aussi, hein, et de chrétiens là-bas. Mais je crois pas que c'est ce que voulait dire cette expression. Jésus a prié pour nous. En Jean 17, il a dit, je ne te demande pas de les sortir du monde, mais de les garder du mauvais. C'est différent. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Il faut bien faire la distinction. C'est ce que Jésus nous dit. Alors la question qui se pose à nous tous, que vous vous êtes peut-être déjà posée, comment être dans le monde sans participer à ses péchés et ainsi échapper à son jugement, peste, famine, deuil? Comment être dans le monde sans participer à ses péchés? Pas facile, hein? Nous devons vivre dans le monde en témoin de Jésus-Christ. C'est à nous, on parle beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, c'est à nous d'influencer le monde et pas l'inverse, c'est pas au monde de nous influencer. Pas l'inverse pour ne pas tomber dans la tentation de nous enrichir. Je vous apprends pas que nous sommes dans ce système de Babylone qui nous pousse à quoi? À gagner plus pour dépenser plus. Et nous sommes appelés à quoi? À résister à ces sirènes. Parce que les tentations sont là. Et la question se pose à nous tous. Où en est notre sécurité et notre cœur? Où en est votre sécurité et votre cœur? En Babylone ou en Christ? Ceux qui rejettent Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont la crainte du lendemain. Ils se livrent à l'amour de l'argent. Et Jésus a dit en Matthieu 6, 25, il a dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Et il nous invite à quoi faire? À prendre position. On a un choix à faire. Ce choix, c'est entre Dieu et l'argent. Et Jésus nous dit en Luc 16, 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le dieu argent. C'est le dieu argent qui détruit la planète en exploitant toujours plus ses ressources, avec en forant des gisements, en forant des puits en Alaska, en ayant ce projet, Alaska qui n'a pas encore été abîmé par la main des hommes, par une déforestation toujours plus grande, par une pêche industrielle qui écrase les petits. Nous sommes dans la démesure de Babylone la Grande. Et récemment, peut-être vous l'avez entendu aussi aux actualités, un conseil d'administration a proposé une augmentation de salaire de 10% à un patron qui gagne 500 000 euros par mois. J'ai aussi entendu un jeune docteur, tout jeune, qui disait que gagner 3 000 euros par mois, c'était trop peu. Il préfère travailler en intérim et avoir 9 000 euros par mois. Là, au moins, ça paye. C'est démesuré. 3 000 euros par mois. Beaucoup aimeraient les gagner, déjà. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que vouloir se passer de Dieu développe une convoitise insatiable qui ne s'arrête jamais. En vouloir toujours plus pour combler le vide que seul Dieu peut combler. En Jésus-Christ. Et tant que Christ n'est pas au centre, l'âme n'est pas satisfaite. Alors oui, nous sommes, nous aussi, Église, devant des choix, et nous sommes devant le danger de l'attirance du luxe. Le luxe qui caractérise tellement Babylone. On nous matraque de publicité, à la radio, à la télévision, sur Internet. La publicité, c'est quoi ? C'est faire naître des faux besoins. Des besoins que nous n'avons pas. Et un écrivain qui s'appelle Georges Bernard Shaw a dit ceci. On dit que dans la vie, il y a deux tragédies. La première, c'est de ne pas obtenir ce que l'on désire. Et la deuxième, c'est de l'obtenir. Oui, ainsi, on peut se retrouver parfois. Mais combien de fois est-ce que vous avez eu ce pourquoi vous avez économisé longtemps ? Vous avez vous aspiriez tellement, vous l'avez enfin eu. Ça peut être un bel ordinateur, une belle voiture. Et puis, au fil du temps, ça a perdu son intérêt. Et c'est passé au placard. Les enfants font ça. À Noël, ils déballent les cadeaux, tout est excité. Et puis, ça passe un jour, deux jours, et après, c'est rangé avec les autres jouets. Il n'y a pas que les enfants. On se retrouve parfois, comme ça. Et où sont les vraies valeurs, n'est-ce pas ? Ça nous interpelle. Où est notre cœur ? Quelle valeur attachons-nous à ce qui dure ? Et quelle valeur attachons-nous à ce qui ne dure pas ? Le remède, l'apôtre Paul, c'est l'épître aux Hébreux. On dit que c'est lui qui l'a écrit. Mais en tout cas, le remède, il est dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, 5. Le remède, c'est le contentement, de se satisfaire de ce que Dieu nous a donné. Alors, là aussi, il y a une des extrêmes à éviter. Ça ne veut pas dire acheter tout au rabais, parce que vous achetez une paire de chaussures à 10 euros, mais il faut la changer un mois après. Ça ne veut pas dire acheter des fruits à moitié pourris, des articles de mauvaise qualité, mais ça veut dire de ralentir, de prendre le temps de choisir le meilleur rapport qualité-prix, plutôt que de s'arrêter sur la solution de facilité qu'est Amazon. Amazon, c'est en tête des moteurs de recherche. Quand vous cherchez un produit, mais si vous donnez la peine de chercher, eh bien vous pouvez trouver moins cher ailleurs, et d'aussi bonne qualité. Mais il faut se donner la peine. Le but du dieu argent est d'enchaîner les gens par des dettes, ou de les inciter à faire des heures supplémentaires, au sacrifice de quoi ? Au sacrifice de leur vie de famille, ou de leur vie d'église. Et c'est dans ce sens qu'il faut sortir de Babylone. Babylone est tombée. Babylone tombera définitivement. Alors, laissons-la tomber. Et puis aussi, ça concerne aussi notre participation financière à l'œuvre de Dieu. Où est-ce qu'elle en est, notre participation financière à l'œuvre de Dieu ? C'est pas tant combien nous donnons, mais quelle est l'attitude lorsque nous donnons ? Est-ce qu'on donnons-nous pour marchander avec Dieu ? Je te donne, tu me donnes. Ça, c'est l'attitude de Babylone avec la bête. Mais Dieu ne nous doit rien. Nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a déjà donné, avec reconnaissance, pour lui rendre grâce. Tout lui appartient déjà. La relation « je te donne, tu me donnes, je te tiens, tu me tiens » qui caractérise pouvoir politique et pouvoir économique, eh bien, cette relation ne durera pas. Elle est instable. À la fin, au grand étonnement de beaucoup, l'un va se retourner contre l'autre. La bête se retournera contre la femme Babylone. C'est ainsi que termine le chapitre 17, le verset 16. Peu avant la fin, je le relis, le chapitre précédent, verset 16. « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. » La prostituée finira par être haïe par ses amants. Le chef antichrétien qui s'était mis ensemble avec la ville antichrétienne pour persécuter les chrétiens finiront par se retourner l'un contre l'autre. Pourquoi un tel revirement ? Réponse au verset suivant, verset 17 du chapitre 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire une chose pareille. Les 10 rois qui soutenaient Babylone, eh bien, ils se lamenteront sur elle. Ils seront hébétés en le regardant brûler. Chapitre 18, verset 9. Alors que ce sont eux et la bête, je viens de lire, qui l'auront brûlé complètement. Ils vont avoir ce qu'ils ont voulu. Babylone va brûler. Et lorsqu'ils vont la regarder brûler, ils vont se lamenter sur elle. Alors que ce sont eux et la bête qui l'ont brûlé complètement. En fait, ils ont été les instruments du jugement de Dieu sans le savoir. Dieu qui fait ce qu'il veut. Eux qui ne voulaient pas de lui, ils ont été les instruments de Dieu sans le savoir. D'où mon troisième point. Les alliances contre Dieu et son peuple seront jugées brièvement et définitivement en se retournant les unes contre les autres. Tout ce qui détourne les gens de Dieu pour les faire se tourner vers l'idolâtrie sera un jour jugé et condamné. Par l'agneau, et par nous, par l'Église. Dieu est juste, on récolte ce qu'on sème, dans de justes proportions. Le tourment et le deuil de Babylone seront proportionnels à son faste, c'est-à-dire grand. Elle qui se croyait reine, invulnérable, à l'abri du malheur, dans son luxe, son orgueil, eh bien, elle connaîtra le deuil, la famine et le feu en un même jour, en une seule heure. Vous avez remarqué, là aussi, vous avez remarqué une seule heure, verset 10, verset 17, verset 19 du chapitre 18, c'est répété. Retournement complet de situation. Tout le monde la fuira. Elle qui se croyait le centre du monde. Eh bien, chefs politiques et marchands se tiendront à distance. Cette expression à distance, elle est répétée 3 fois, verset 10, verset 15 et verset 17. Elle qui attirait le monde par sa séduction, elle finira complètement seule et détruite. Et oui, soigner la beauté extérieure pour séduire n'amène que la solitude au final. La vraie beauté, elle est d'abord intérieure, en Jésus, et pas basée sur l'extérieur, pas basée sur l'apparence. Et nous, chrétiens, bien, nous avons le discernement pour ne pas nous laisser séduire. Le discernement en Christ. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'Internet. Internet qui a fait du monde un seul village mondial, ce qui le rend d'autant plus fragile. Imaginons une panne électrique, ça tombe. On ne sait pas si ça se produira. Mais en tout cas, Internet a fait du monde un village mondial. La confusion de Babylone, où tout se mélange, fera sa perte. Sa chute entraînera la chute de tous les grands qui se confient en elle. Comme un jeu de domino, vous savez. Plus de soutien politique, plus de soutien économique, plus de commerce non plus. Et autant Jean avait été étonné de la grandeur de Babylone, autant les rois et les marchands seront étonnés par la grandeur et la rapidité de son jugement. Alors ils se lamentent. Hein. Mais pourquoi ils se lamentent? Leurs lamentations sont égoïstes. Ils ne se lamentent pas pour Babylone, ceux qui se lamentent sur elle. Ils se lamentent parce qu'ils voient leur revenu partir en fumée. C'est pour ça qu'ils se lamentent. Ils ont vécu, les rois et les marchands, ils ont vécu par Babylone et pour Babylone, eh bien, ils tombent avec elle. Ils tombent avec elle. Et Babylone, elle est comparée à quoi? Elle est comparée à une lourde meule qui est jetée au fond de la mer. Pour bien montrer que Babylone disparaîtra totalement et définitivement, jamais une pierre aussi lourde ne se refera surface quand Dieu l'aura décidé. Ce sera la chute définitive d'une civilisation, la dernière mondiale. Mais en revanche, par contraste avec les lamentations sur Babylone, eh bien on va entendre une grande fête au ciel pour les martyrs chrétiens qui auront été vengés. La justice triomphera. Mais à Babylone, contraste avec le silence. On n'entendra plus le bruit des artisans. Plus de progrès technologique. Plus de lumière. Plus de fêtes. Plus de musique, si vous aimez la musique. Moi, j'aime la musique, je me suis dit, mais attendons. Plus de musique, plus de loisirs dans Babylone. Plus de mariage. Est-ce que ça veut dire que toutes ces choses sont mauvaises? Musique, fête, mariage. C'est ce qui caractérisait Babylone. C'est ce qui caractérise Babylone. Bien sûr que non, ces choses ne sont pas mauvaises. Bien sûr que non. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais elles peuvent le devenir si elles deviennent l'objet de toute notre affection. Et remplace quoi? Remplace notre amour pour Dieu. Où est votre cœur? Où est notre cœur? Qu'est-ce que nous aimons au plus au final? Dans Babylone, l'amour est absent. Il n'y a pas d'amour dans Babylone. Même si les mariages s'y pratiquent, il n'y a pas d'amour. Si Jésus n'est pas le centre de votre affection, eh bien vous risquez d'avoir vos sens endormis. Pire, Babylone a tué les prophètes. Elle ne voulait plus entendre parler de Dieu. Seul son commerce comptait. Alors la clé pour tenir bon, eh bien c'est l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu qui va nous aider à tenir bon dans un monde de plus en plus mauvais. Et Dieu a montré le plus grand amour, c'est lui qui a fait le premier pas. Vous vous rappelez la tour de Babel? Les hommes voulaient que leur tour de Babel atteigne le ciel. Qu'est-ce que c'est qui a atteint le ciel d'après notre texte? C'est leur péché qui s'est accumulé jusqu'au ciel. Le péché qu'ils n'ont pas voulu abandonner, dont ils ne se sont pas repentis. L'homme a voulu se faire Dieu en prenant la place de Dieu, en prenant sa place. Qu'est-ce qu'a fait Dieu en réponse? Eh bien, Dieu s'est fait homme en prenant sa place. Où ça? Ce que nous recommençons à fêter, ce que nous fêtons chaque dimanche, lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il a pris la punition de nos péchés. Prenant ainsi notre place à la croix. Pour que nos péchés puissent être pardonnés. Parce que péché non pardonné, péché accumulé. Péché non pardonné, péché accumulé. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, attachez-vous en premier à Christ, dans la repentance et dans la foi. Jésus qui devrait être notre plus chère valeur, celle qui dure, valeur sûre. Alors les autres choses, eh bien, viendront à la bonne place. Elles vont prendre tout leur sens quand elles viendront à la bonne place. Et c'est ainsi que nous nous tiendrons debout sur le rocher qui est Christ. Notre espérance ne sera pas déçue, contrairement à celle des incroyants qui sont assis sur Babylone, qui ne durera pas. Je termine avec ce proverbe, dans Proverbe 4, chapitre 4, verset 23, qui est une exhortation avec laquelle on peut rester avec cette exhortation et j'espère tout le reste. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est à chacun de faire attention. Garde ton cœur. Je vais prier. Seigneur, je veux encore te remercier parce que par ta parole, Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur, et tu nous aides à comprendre mieux notre monde, Seigneur. Pas pour nous replier sur nous-mêmes, mais Seigneur, pour mieux briller de ta lumière, Seigneur, dans ce monde. Et nous te demandons, Père, de te rester fidèle, cette grâce, de te rester fidèle. Tu vois comment La pression, Seigneur, s'accentue et tu vois aussi, bien sûr, nos frères et sœurs persécutés dans les pays où ils n'ont pas la liberté de culte. Seigneur, nous te demandons cette grâce de nous garder fidèles à toi, à ta parole, Seigneur. Nous te demandons le discernement. Merci parce que tu parles à ton Église, tu nous parles à chacun par ton Saint-Esprit. Seigneur, que nous soyons vraiment versés dans ta parole, Seigneur, pour ne pas nous laisser berner, Seigneur, par les apparences extérieures, par ce qui impressionne. Seigneur, vraiment, c'est qu'on reste chacun ancré en toi, dans ta parole. Je te prie que tu nous gardes chacun, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur, et que nous fassions attention à notre cœur, Seigneur, avec quoi nous le nourrissons. Et voilà, que tu sois au centre de toute notre vie, Seigneur. Tu veux occuper les moindres recoins de notre cœur, de notre vie, parce que la vie, tu nous la donnes en abondance, Seigneur, que ça soit dans notre métier, que ça soit dans notre famille, que ça soit, voilà, dans des promenades dans la nature, Seigneur. Voilà, nous voulons vraiment te remercier. En ton nom, Jésus. Amen.
Amen.